100% d'Europe, Léa Lisa Westerhoff.
Bonjour, les chiffres se succèdent, chaque jour un peu plus sombre. Un cinquième des travailleurs britanniques au chômage partiel, presque 300 000 demandeurs d'emploi de plus en Espagne en un mois. Les économies européennes s'effondrent. Bruxelles parle déjà d'une récession historique inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Quelle sera l'Europe d'après le coronavirus? Sans conteste, une Europe en crise. Direction l'Irlande, l'île avait été parmi les pays européens les plus violemment touchés par la crise de 2008, mais s'était brillamment relevé. Aujourd'hui encore, le gouvernement prévoit un plongeon de 10% du PIB et une explosion du chômage, alors que l'île connaissait encore récemment le plein emploi. Et Emeline Vin, ce sont les jeunes qui risquent d'en payer le prix fort.
En dernière année de tourisme international, Daniel Mangan, 21 ans, pensait travailler dès cet été dans un hôtel comme gestionnaire.
Je me sens un peu stressée. J'ai étudié pendant 4 ans pour travailler dans un secteur qui a été littéralement balayé en quelques semaines. Les hôtels sont fermés à l'heure actuelle, ils n'emploient personne et ne sont pas prêts d'embaucher à nouveau. J'imagine que je vais devoir attendre que le pays rouvre pour voir mes perspectives d'emploi. On verra bien.
Les jeunes comme Daniel, les travailleurs les moins expérimentés, seront les premiers touchés par le chômage dans cette crise du Covid. Chômage qui devrait atteindre les 12% et toucher de plein fouet les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration et de la construction. Marc Cassidy, responsable des statistiques à la Banque centrale d'Irlande.
Les jeunes travailleurs sont concentrés dans les secteurs les plus durement touchés. Un quart des emplois a été détruit par le confinement dans la population active en général. Pour les tranches d'âge les plus jeunes, c'est la moitié. Je pense qu'il faut s'attendre à ce que le taux de chômage chez les jeunes augmente davantage que dans la population active en général.
Lors de la dernière récession, entre 2007 et 2012, 4 700 000 personnes ont quitté l'Irlande, en grande majorité des Irlandais âgés de 15 à 34. Powell Adrian, économiste au sein de la plateforme de recherche d'emploi Indeed, craint que les jeunes Irlandais n'aient pas cette possibilité cette fois-ci.
Le nombre de 15-24 ans dans la population active a baissé de 40% entre 2007 et 2012. Ça a été un véritable exode. C'est différent aujourd'hui. La crise est vraiment mondiale. Les autres marchés où les jeunes Irlandais auraient pu émigrer sont aussi affectés. Cette fois-ci, les jeunes d'Irlande n'auront pas cette soupape de sécurité.
La reprise économique sera lente, selon la Banque centrale, mais elle commencera plus tôt que lors de la précédente récession. Entre autres, car cette fois, il existe un système de verrouillage pour éviter un effondrement du système bancaire et des mesures monétaires internationales, comme la suspension des contraintes budgétaires européennes. Les nouvelles technologies pourraient représenter une planche de salut pour les Irlandais, estime Powell Adrian.
La publication d'offres d'emploi a diminué de 48%, mais on continue de voir des offres postées dans la santé, le nettoyage, la restauration et la livraison. Le fait que l'Irlande soit un tel carrefour de la technologie est une vraie chance. La technologie s'en sort bien mieux que tout le reste. Elle devrait fournir des opportunités d'emploi pour les personnes actuellement en recherche, y compris les jeunes diplômés.
Ces conseils aux travailleurs de moins de 30 ans qui seront bientôt en recherche d'emploi, de la flexibilité avant même d'avoir commencé à travailler, quitte à revoir ses exigences à la baisse.
Il y a dans cette pandémie comme une double injustice. Non seulement le Covid-19 ne frappe pas de la même manière d'un pays à l'autre, mais en plus, en Europe, il sévit surtout là où le tourisme pèse particulièrement lourd dans l'économie. La Grèce, mais aussi l'Espagne ou l'Italie, qui ont subi de plein fouet les ravages du coronavirus, vont aussi mettre plus de temps que les autres à se relever. Ils sont déjà endettés et manquent de moyens budgétaires. L'Italie, avec ses 8000 km de côte, où le tourisme balnéaire génère 13% du PIB, est donc particulièrement pressée de rouvrir l'accès à ses plages. Mais ce n'est pas gagné. Cécile Debarge.
Le coup d'envoi de chaque saison balnéaire en Italie est donné par décret ministériel. Pour l'instant, la saison est purement et simplement annulée, explique Dorothée Lambert, une Française qui vit et travaille à Avola, dans l'est de la Sicile, où elle est gérante d'un lido, un espace aménagé sur une plage avec parasol, transat et restaurant.
On nous fait que des suppositions sur comment on pourra éventuellement ouvrir. Mais pour l'instant, on te demande de dépenser de l'argent pour nettoyer, sans savoir si tu vas avoir vraiment le droit d'ouvrir.
Bien qu'aucune date n'ait encore été fixée, les premières hypothèses de réouverture prévoient de nombreux aménagements pour respecter une distance d'un mètre entre les clients. Concrètement, pour Dorothée Lambert, cela veut dire moins de parasols, moins de transats. À quoi s'ajoute par exemple le port du masque, des parcours aménagés pour l'entrée et la sortie des clients, une désinfection du sable et même des certificats de désinfection anti-Covid-19 pour la structure.
Quand on nous donne les suppositions qu'on devrait avoir pour ouvrir, ça finit par être de la salle d'opération chirurgicale, quoi.
Une entreprise de la région de Modène a même imaginé des boxes en plexiglas à poser sur le sable pour isoler les familles. Une idée rejetée par le ministre du Tourisme Dario Franceschini, qui a annoncé un plan de soutien au tourisme italien le 22 avril dernier, dont l'une des mesures phares serait un chèque vacances d'une valeur de 500 euros remis aux Italiens. L'objectif, relancer le tourisme national, car le manque à gagner des touristes internationaux entre 2019 et 2020 pourrait s'élever à 20 milliards d'euros.
L'absence de tourisme international, qui occupe une grande place dans notre pays, va durer longtemps. Et c'est évident que pour la même raison, les Italiens n'iront pas en vacances à l'étranger pendant un long moment. Il faut donc faire un gros investissement sur les vacances en Italie.
Un vœu pieux tant que les mouvements entre les régions restent interdits. Trois régions du nord de l'Italie concentrent près des deux tiers des cas de Covid-19. Ce sont aussi les régions les plus riches dont sont originaires de nombreux touristes qui viennent dans le sud du pays. Seuls 30% de la clientèle de Dorothée Lambert sont des locaux. Le reste sont des touristes étrangers et du nord de l'Italie, explique-t-elle.
Les côtes du nord de l'Italie ont un bassin de clientèle qui est énorme, avec toute la Lombardie, avec tous les gens qui n'ont pas de mer à proximité dans le sud. De toute façon, s'il n'y a pas les Italiens du nord qui descendent et les étrangers qui viennent, de toute façon, il y aura au moins, là on en discutait parce que je suis inscrite à un syndicat des balnéaires, il y aura au moins une entreprise sur trois qui fermera.
Pour l'heure, aucune aide concrète n'est encore parvenue aux entreprises du tourisme. Nombreux sont ceux à déjà savoir qu'une réouverture ne couvrira pas leurs frais. Selon un rapport publié par l'ENIT, l'Agence nationale du tourisme, il faudra attendre 2023 pour retrouver des points de croissance dans le secteur du tourisme.
Nous pouvons transformer le choc de cette pandémie en une occasion de reconstruire nos économies différemment et de les rendre plus solides. Pour que nous transmettions à nos enfants une planète en meilleure santé, grâce à une relance verte.
Faut-il appeler à un nouveau monde, changer de mode d'emploi, relancer l'économie de façon plus durable et respectueuse de l'environnement? Voilà le projet d'Ursula von der Leyen, vous venez de l'entendre. La présidente de la Commission européenne veut relancer l'économie avec son plan vert. Une belle idée, mais va-t-elle y arriver? Les explications de Johanna Hochstein.
Pour l'instant, le Green Deal de la Commission européenne est en suspens. Plusieurs grands chantiers pour la biodiversité, pour une agriculture plus écologique, contre la déforestation sont retardés. Prenons par exemple la stratégie intitulée « De la ferme à l'assiette », dont l'objectif est de rendre les systèmes alimentaires plus durables. La stratégie devait initialement être présentée à la fin du mois d'avril. Aujourd'hui, on évoque plutôt la fin du mois de mai. Une quinzaine de parlementaires européens issus de plusieurs groupes politiques s'inquiètent de nouveaux retards. Ils l'ont fait savoir à la Commission européenne. Ces eurodéputés demandent à l'exécutif européen de prendre la juste mesure de la crise sanitaire. D'après les premières versions du texte qu'ils ont pu consulter, la Commission ne fait pas suffisamment pour réduire la consommation excessive de viande et de produits laitiers, tout comme l'industrialisation de l'agriculture. Selon ces députés, cette préoccupation est encore plus grande alors que le monde est en pleine pandémie à cause d'une maladie d'origine animale. Et de conclure, le système alimentaire actuel centré sur l'élevage intensif est responsable de 37% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut donc, selon eux, abandonner les produits d'origine animale au profit de régimes alimentaires utilisant davantage de végétaux. Leur message sera-t-il entendu ? Les belles intentions de la Commission européenne seront-elles suivies d'actes à la hauteur de l'enjeu ? Un certain nombre de députés européens comptent en tout cas veiller au grain.
En France, les producteurs agricoles n'ont pas attendu de directive de l'Union européenne pour saisir l'opportunité qui leur était présentée. Livraison, point de retrait, porte à porte. Depuis le début du confinement, la vente directe a explosé. C'est ce qu'on appelle les circuits courts. Mais cette tendance, manger local pour manger mieux, va-t-elle perdurer après la crise du Covid-19 ? Le reportage de Lise Verbeck.
Monsieur, bonjour.
Chaque jour à 17h, une longue file d'attente se forme devant la camionnette de Perrine, près d'Amiens. La maraîchère de 29 ans s'active pour donner les paniers de légumes que les clients ont commandés au préalable par texto. La vente directe, la jeune femme l'a pratiquée déjà avant le confinement, mais elle a vu la demande doubler depuis un mois.
Nous avons beaucoup de nouvelles têtes de tous âges qui actuellement préfèrent s'approvisionner auprès des producteurs locaux au lieu de se retrouver dans les supermarchés. Donc on est vraiment de tous les âges, hein. Vous avez du plus jeune, des petits étudiants jusqu'aux personnes âgées. Donc ça fait plaisir de voir qu'on arrive quand même à avoir une gamme de clients assez large et à toucher pas mal de monde.
Entre les paniers à préparer et le travail dans les champs, la jeune femme croule sous le boulot. Le constat est le même pour Jimmy, cofondateur du court-circuit.fr. Son site permet de faire ses courses en ligne en choisissant fruits, légumes, biscuits ou encore bières provenant de 120 producteurs et artisans de la région Hauts-de-France. Les clients retirent ensuite leur colis dans un point de collecte.
Alors depuis le confinement, c'est simple. Du jour au lendemain, les commandes ont été multipliées par 3. Le panier moyen a augmenté de 60%. Donc ça a été vraiment un effet immédiat. On a senti que le court-circuit.fr, comme d'autres solutions de circuit court, ont été des valeurs refuge, je pense. Des solutions, des actions où les consommateurs ont pu à la fois... allier le plaisir des bons produits, puisque ces périodes de confinement, au final, une des seules choses qui nous reste à faire, c'est de bien manger. Et en plus, tout ça allié avec la sécurité, puisque nous, on a mis en place dès le début toutes les mesures qui vont bien pour assurer des retraits sereins, donc avec les mesures de distanciation. On a juste à donner son numéro quand on arrive au retrait, on repart avec sa commande et voilà... 15 secondes après, on est reparti.
Jimmy a vu arriver un tiers de nouveaux clients. Cet engouement pour le produit local, Yuna Chifolo, spécialisée en sociologie économique et en circuit court, le constate également.
Chaque crise sanitaire a ramené des nouveaux consommateurs en circuit court. Ça a été la vache folle, mais ensuite il y a eu la grippe aviaire. Ce sont aussi, au-delà des crises sanitaires, les crises de confiance envers les filières longues. C'est les lasagnes au cheval. Donc cette idée que les filières longues sont opaques, peu transparentes, on n'a pas la main dessus. Donc il y a aussi cette idée de se réapproprier, finalement, de se redonner confiance en allant acheter directement un producteur.
Il y a donc en ce moment un changement dans la manière de consommer et depuis plus de 10 ans, une démocratisation du circuit court qui n'est plus réservé qu'aux classes aisées.
Cette crise, elle amène une nouvelle clientèle qui pouvait avoir des clichés, des idées reçues, qui teste, qui se rend compte que finalement, il n'y a pas besoin d'être militant, et c'est des bons produits avec des prix parfois même très intéressants. Et là, ça fait tomber ces clichés, ces idées reçues, et ça permet à cette nouvelle clientèle aussi de continuer à consommer dans ces circuits.
Et selon la sociologue, l'enjeu pour que cette tendance perdure, c'est que les circuits longs et les circuits courts ne s'opposent plus, mais qu'on aille vers une consommation plus responsable.
On est vraiment sur une forme de consommation complémentaire, dans lequel, pour nous, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'elle permet aussi aux gens d'apprendre, de se réapproprier son alimentation, de comprendre ce que c'est que l'agriculture, dont on s'est beaucoup éloigné. Et tous ces apprentissages, ils sont favorables à une transition générale, que ce soit des circuits courts ou des circuits longs, vers un modèle plus durable sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique.
Les producteurs agissent aussi beaucoup en ce moment pour diversifier leurs circuits courts avec des points de livraison différents ou encore des distributeurs automatiques. Selon la sociologue, cela permettra après la crise de rendre ces circuits courts beaucoup plus visibles et plus pratiques pour les consommateurs.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, mesdames, merci bien.
Au revoir.
Au revoir.
changer notre façon de consommer, de vivre en société ou de travailler. Cette pandémie va nous obliger à nous réadapter à de multiples niveaux. En France, les VTC étudient la possibilité d'installer une vitre entre le client et le conducteur pour éviter tout risque de contamination. Au Royaume-Uni, les fameux Black Cabs, les taxis de la capitale, ont déjà entamé leur mue pour pouvoir continuer de travailler. En partenariat avec l'application de taxi Jet et les services de santé nationaux, le NHS, ces Black Cabs ont accepté de se transformer en taxi-ambulance pour des patients potentiellement atteints du Covid-19. Marie Lyon a rencontré l'un de ces Black Cabs pour nous.
Kevin fait quelques pas pour se dégourdir les jambes. Il ne pourrait pas rester dans son taxi de toute façon, même s'il le voulait. Le véhicule est en train d'être désinfecté.
Je suis à la station d'attente principale à Peckham. Dès qu'on a fait une course, on revient ici tout de suite pour que le véhicule soit lavé. Nous, on n'y touche pas. C'est une équipe spécialisée qui se charge de la décontamination. Ils lavent tout, mettent de nouveaux masques à disposition pour le prochain client, vérifient qu'il y a bien du gel hydroalcoolique à portée de main, et puis le taxi est prêt pour la prochaine course.
La cabine passager est en effet nettoyée en fonction des standards du NHS, de la santé publique, par des professionnels en combinaison de protection complète, précise Kevin. Et pour cause, il est quasiment assurer que chacun de ses clients est atteint du coronavirus. Duncan Burgess est le directeur général de Get, l'application de taxi qui met en lien les chauffeurs et les patients clients envoyés par le NHS.
Quand le NHS estime qu'un patient qui a les symptômes du coronavirus a besoin de se rendre chez le docteur, il fait appel à notre plateforme qui le met en contact avec un chauffeur. Le taxi va chercher le patient chez lui et l'emmène dans une des cliniques nouvellement créées juste pour le Covid-19. Selon les décisions du médecin, le patient est alors ramené chez lui en taxi ou emmené dans un autre service du NHS.
C'est après une course comme celle-ci que Kevin ramène son véhicule pour être désinfecté. Depuis 3 semaines, il ne fait que ça. Il n'a plus aucun client classique et pour cause.
Mon taxi a été rendu entièrement hermétique. En entrant dans la cabine passager, on se croirait dans un film d'horreur. Absolument tout est recouvert de plastique. Dans tous les Black Cabs, il y a de toute façon une vitre en plastique qui sépare le passager du conducteur. Ils ont bouché tous les trous qu'il pouvait y avoir. Ils ont même bloqué l'air conditionné pour qu'il ne circule pas entre l'avant et l'arrière.
Kevin fait partie de la poignée de conducteurs de Black Cabs qui se sont portés volontaires pour participer à cette initiative. Ils sont un peu moins d'une dizaine pour le moment, selon Get. Avec les 3 collègues qui travaillent dans le même arrondissement que lui, Kevin estime qu'ils effectuent entre 12 et 20 courses par jour, mais le concept pourrait s'agrandir rapidement. Kevin, en tout cas, n'a pas hésité à se porter volontaire. Son épouse travaille pour le NHS, dit-il, et il a souffert d'un cancer il y a quelques années, alors il est heureux de pouvoir rendre l'appareil au service de santé. Il a quand même voulu vérifier à 100% si lui-même était bien en sécurité en faisant ce job.
J'ai parlé à un médecin chef et il m'a dit que j'étais plus en sécurité dans ma cabine qu'au supermarché. Il m'a dit de ne jamais sortir de mon taxi. Même si quelqu'un tombe en sortant de mon véhicule, il m'a dit de ne pas sortir et d'appeler une ambulance. Quand j'arrive à la station pour le nettoyage, je dois m'éloigner immédiatement d'une dizaine de mètres. Je fais une course, un masque. J'ai aussi du gel hydroalcoolique à disposition.
Le quotidien de Kevin a énormément changé depuis qu'il participe à cette initiative, ne serait-ce que parce que la plupart de ses clients sont vus par les médecins à l'intérieur de son taxi pour limiter leurs déplacements à l'air libre. Il reste donc avec eux à l'aller et pendant la consultation avant de les ramener au point de départ ou dans un hôpital si besoin. Pendant ce temps-là, il ne laisse pas tourner le compteur. Les conducteurs volontaires sont payés un salaire fixe, explique Duncan Burgess.
Le client ne paye rien. C'est le NHS, le système national de santé, qui paye pour qu'un certain nombre de taxis spécialement équipés soient toujours disponibles en cas de besoin. Donc ça fonctionne par vacation de 6h à 8h.
C'est un bon compromis, assure-t-il. Ils gagnent moins bien que d'habitude. Get ne veut pas dévoiler le montant de leur salaire. Mais en ce moment, avec le confinement, les 25 000 Black Cabs de Londres sont presque au chômage technique. Alors Kevin et ses collègues volontaires y trouvent leur compte.
Accent d'Europe était enregistré à distance, réalisé par Laurie Plisson aujourd'hui. On se retrouve lundi. D'ici là, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou via notre podcast Accent d'Europe sur notre site rfi.fr. À bientôt.